Rencontre avec des poètes de chez nous, une émission proposée et animée par Patrick Matelier-Guinlay. Bonjour chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Campus FM 96.7 pour cette heure un petit peu raccourcie aujourd'hui, je m'en excuse, cette heure consacrée à la poésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maurice Aurel. Bienvenue, bonsoir Maurice.
Bonsoir Patrick, merci de m'accueillir.
Alors, Maurice Aurel, la particularité, c'est que, tout comme les deux derniers poètes que nous avons reçus, Auguste Armette et Serge Restog, il a fait partie de cette fantastique aventure de Cri et Société.
C'est exact.
Nous allons en parler un peu plus tard. Donc, Maurice Aurel, 56 ans ?
58.
58, ah oui, 58 ans, né
à Fort-de-France.
À Fort-de-France. Et donc, après des études philo pour un bac philo, puis une licence en droit en 69, ensuite, chargé de cours de droit privé au centre de formation des agents municipaux. Puis, de 69 à 71, enseignant de lettres au COPES.
Enseignant de lettres au COPES, effectivement.
Et puis, de 70 à 99.
99, oui.
Oui, responsable de formation et directeur des études au COPES.
C'est exact.
Donc, une formation juridique, littéraire. Et alors, moi, j'ai tout de suite une première question. Qu'est-ce qui t'a amené à la poésie? Pourquoi la poésie?
C'est une question.
Et puis, quand est-ce que ça a commencé?
Eh bien, ça a commencé très tôt. Et lorsque j'avais 15-16 ans. Et en fait, c'est une aventure qui a commencé au moment où je faisais la connaissance d'un homme que je vais nommer. Il s'agit d'Émile Duranty, qui a été mon coiffeur pendant une trentaine d'années et qui m'a, disons, ouvert les yeux à la chose poétique, qui m'a permis de jeter un regard nouveau sur la poésie, dans la mesure où tout ce que l'on apprenait à l'école à l'époque, bon ben c'était ce que nous savons, poésie classique, etc. Donc grâce à lui, je me suis quelque peu initié à la poésie antillaise, à la poésie négo-africaine, et puis un jour, je me suis retrouvé avec un stylo, une feuille, et j'ai écrit un poème. Ensuite, il y a eu un deuxième, un troisième, et voilà.
C'est le barbier de Longville, c'est pas le barbier de Séville.
C'est pas le barbier de Séville, le barbier de Longville.
Et donc, depuis ce temps, tu écris?
Oui, depuis ce temps, j'écris, mais je ne peux pas dire que je sois quelqu'un qui écrit de manière régulière. Je suis tributaire de mon inspiration, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas énormément de textes, comme certains auteurs martiniquais ou d'ailleurs.
Alors, en français et en créole.
Et en créole, plus en français qu'en créole.
Mais quand même.
Quand même en créole.
Cet amour de la poésie et de la langue créole.
Ah oui, absolument. Absolument.
Voilà. Et puis donc, pas de publication de recueil, mais une participation donc dans cette aventure extraordinaire, Cri et Société, 1978,
oui.
Anthologie d'une poésie
de combat. Oui.
Donc, nous en avons un peu parlé, évidemment, avec Auguste Armette et avec Serge Restog. Est-ce que tu peux nous faire part, toi, de ton expérience en la matière?
Bon, eh bien, je ne reprendrai pas ce que Auguste Armette et Serge Restog ont dit. Ce que je voudrais surtout faire ressortir, c'est que ça a été une expérience très intéressante, dans la mesure où, en 1978, il y avait un certain nombre de personnes qui écrivaient, jeunes, moins jeunes, mais qui étaient encore sous la coupe des aînés, comme on dit. et qui ne voulait pas publier. Donc Cuir Société a été pour nous, je dis qu'il ne voulait pas publier, mais qu'il ne pouvait pas publier non plus, parce que l'édition a toujours été quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, avec Cuir Société, à l'instigation d'Auguste Armet et de quelques autres camarades, et nous avons par conséquent recherché un certain nombre de poèmes, de poètes, pardon, des poètes en bas-feuille, comme tu dis, et nous avons publié leurs textes, mais bien évidemment dans une optique de combat, hein, qui est Société Littérature Antillaise de Combat. Et si on se le rappelle, la couverture, c'était les trois couleurs du drapeau national, noir, rouge et vert.
Donc, pour toi, la poésie est un engagement.
La poésie est un engagement. Oui, la poésie est un engagement, dans la mesure où je me suis toujours senti impliqué d'une manière ou d'une autre dans le processus de développement de ce pays. Et je n'ai pas choisi les tréteaux, je n'ai pas choisi de faire de la politique comme on en fait au Conseil général, Conseil régional, etc. Enfin, à travers l'activité professionnelle qui a été la mienne pendant une trentaine d'années, je crois que ça a été pour moi une manière de militer. Et puis la poésie, ça a été, disons, l'affirmation écrite de mon militantisme.
Si tu dois définir ta poésie.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas faire ressortir? Les caractères principaux, les thèmes peut-être
Alors, en fait, dans mon parcours poétique, si je peux employer cette expression un petit peu pompeuse, il y a deux temps forts. Un premier qui concerne tout ce qui est engagement militant et identitaire. Et puis un deuxième qui est un petit peu plus proche du personnage dans la mesure où il s'agit de poèmes intimes, où je parle d'amour, enfin de tout ce qui est vraiment intime.
Comme tous les poètes.
Comme tous les poètes.
L'amour
comme
est une source inépuisable.
Voilà, voilà.
Oui. Alors, tu as, je sais, l'intention d'essayer de publier un recueil. Poème militant du temps jadis
oui.
Pour lequel j'ai eu le plaisir de te recevoir d'ailleurs au Linas Café. Et ce poème militant du temps jadis, bon, ça parle de soi-même en fait, quelque part, mais du temps jadis, est-ce à dire que à l'heure actuelle on ne milite plus, et est-ce que tu penses que la poésie dans ce monde a encore un rôle à jouer dans la société moderne, matérialiste, déshumanisée
Oui, alors là tu as deux questions. La première, pourquoi poème militant du temps jadis, et puis la deuxième, est-ce que je pense que la poésie a encore un rôle à jouer? Alors je réponds à la première en disant que cet intitulé, il est en fait en correspondance profonde avec cette première étape de mon parcours poétique, dans la mesure où, dans le développement politique, le développement politique de la Martinique, il y a eu un moment où j'ai éprouvé une grande déception. Si bien que j'ai cessé d'écrire, disons que la muse m'avait laissé sur le côté du chemin. Et puis, après, j'ai donc abordé cette deuxième étape, ce deuxième temps fort, qui est cette poésie intime. Bon. Alors, la deuxième question, la poésie a-t-elle un rôle à jouer dans la société, dans le développement des hommes? Je crois que oui. Je pense que la poésie, et comme tout art d'ailleurs, lorsqu'il est fait avec amour, est une manière pour les hommes de communiquer entre eux au-delà de la parole, au-delà des mots. Donc, je pense qu'à ce niveau, la poésie a un rôle à jouer, mais je crois qu'il est important aussi de dire que il me semble que depuis un certain temps, la poésie est devenue une chose vraiment commerciale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui font ce que Césaire une fois a appelé de la poésie slogan, Et il y a beaucoup d'éditeurs qui acceptent de publier ce genre de texte, ce type de texte. Si bien que, quelquefois, on peut se demander, mais la poésie, qu'est-ce que c'est, quoi? Parce que il y a des textes, je ne veux pas jeter la pierre, hein, je dis comme ça ce que je pense. Il y a des textes qui, à mon sens, sont dits poèmes par une certaine personne et qui en fait ne sont pas des poèmes parce qu'il y a quelque chose qui leur manque.
La musique,
la sonorité. En fait, moi, lorsque je me retrouve devant certains poèmes, j'ai l'impression que ce sont des textes en prose qu'on a simplement découpé. Il y a des vers qui sont plus ou moins longs que d'autres. Mais en fait, si on les mettait les uns à la suite des autres, au niveau typographique, ça ferait un texte en prose.
Un style de poésie qu'on pourrait qualifier de didactique.
Oui, mais enfin, est-ce que c'est de la poésie? Je ne sais pas. Bon, il est très, très difficile de définir la poésie. Donc, je ne veux pas venir ici et m'ériger en donneur de leçons. Chacun a sa manière de voir la poésie. Moi, j'ai dit comment je la vois. Maintenant, j'ai dit ce que j'en pense.
Voilà. Tu es là pour ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, tes influences, parce que comment tu définirais ton style de poème? Est-ce que tu as eu des influences? Est-ce que des poètes martiniquais ou autres t'ont influencé, t'ont marqué sans même t'influencer?
Bien, je crois que mes premiers contacts avec la poésie, à l'exclusion de celles qui faisaient l'objet de mes études pendant mes années de secondaire, ont été avec les poèmes de la négritude. Donc Césaire, Damas, Senghor, un petit peu plus tard Bookman, ont été un petit peu ces personnes qui ont défriché les terres arides de mon esprit.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu en commun pour toute une génération, influence des poètes négritude. Mais il y en a un qu'on ne cite jamais, et je le déplore. C'est le malgache, Rabea Rivelo.
Oui, Rabea Rivelo, effectivement.
Ben, en fait, il est un peu le parent méconnu de ce mouvement de la négritude. Peut-être parce qu'il est plus lyrique. Et puis, il a eu une fin tragique.
Oui, c'est
très
exact.
Très jeune,
oui. Je crois qu'il s'est suicidé.
Il n'avait même pas 40 ans.
Jean-Jacques Rabea Rivelo. Oui, alors je pense que effectivement il y a toute une série de poètes qui ont pris leur part de responsabilité dans le développement de la négritude, disons de manière plus générale dans le développement de la littérature négro-africaine et antillaise. Mais ceux qui ont fait l'objet d'études et dont on a parlé le plus souvent, c'est les quatre que j'ai cités, parce qu'ils ont été les fondateurs, les piliers en quelque sorte, et par conséquent c'est eux qui ont marqué cette génération à laquelle tu as fait allusion.
Alors il y a pas si longtemps, oui, c'était la fête des mères, et tu m'as donné un texte de poème à lire. Tu m'as dit commençons par ça pour illustrer ma poésie, et je vais le lire avec beaucoup de plaisir. C'est un poème que tu as écrit assez récemment.
Oui, il n'y a pas longtemps, le 26 décembre.
Oui, et qui s'appelle « Le plus beau de tous les cadeaux ».
En fait, je voudrais simplement préciser que ma mère est une dame de 97 ans qui est alitée depuis quelques années. Et c'est une dame que je porte au plus profond de mon cœur. J'espère que tous les fils portent leur mère au plus profond de leur cœur. Tous les fils, toutes les filles aussi, bien sûr, tous les enfants. Et le regard que je porte sur elle, bien, je crois qu'à certains moments, je sens qu'il y a une force qui m'amène, qui m'oblige en quelque sorte à le traduire par des mots. Et ce poème en est une illustration.
Le plus beau de tous les cadeaux pour ma mère. Le plus beau de tous les cadeaux pour moi en ce temps de ma vie qui est aussi temps de Noël. Ce n'est ni le meilleur livre de l'année, ni le plus beau vêtement de chez Dior, ni le plus beau de tous les diadèmes, ni la plus grosse de toutes les sommes jamais gagnées au jeu. Le plus beau de tous les cadeaux pour moi, en ce temps de ma vie, qui est aussi temps de Noël, c'est de voir chez toi, chaque matin que Dieu fait, cet imperceptible mouvement de la poitrine qui me parle et me dit que malgré ton presque siècle, malgré tes jambes réticentes à tout mouvement, malgré les cassures, les fractures et les brisures qui t'ont affecté tout au long de ta vie, malgré l'usure du temps, malgré la morsure des ans, tu résistes encore, pour mon plus grand bonheur, à l'appel d'une... Ah, une musique espagnole, hein? Nelson Ned, un boléro argentin. Oui. Si las flores pudieran hablar, si les fleurs pouvaient parler. Pourquoi ce choix? Puisque c'est la musique que tu as choisie.
Oui, je l'ai choisi parce que c'est un morceau que j'aime, mais j'aurais pu en choisir un autre, hein, parce que j'aime beaucoup la musique sud-américaine et j'aime beaucoup la langue espagnole. Je me rappelle, lorsque j'étais en quatrième, il y avait un texte qui présentait cette langue comme étant la lengua del corazón. Et je crois que c'est vrai, c'est vrai. Je ne dis pas qu'avec les autres langues, on ne peut pas dire la même chose qu'en espagnol, mais il y a quand même une sonorité dans cette langue. Il y a quelque chose qui fait que lorsqu'elle est bien prononcée, lorsqu'elle est bien dite, eh bien, c'est une communication.
C'est une musique, déjà, c'est une langue qui est très musicale.
Très musicale, absolument.
Et qui se prête à la poésie, ouais, parce que le texte, en l'occurrence, est très poétique.
Il est très poétique. Oui.
Et c'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup. Mmh. J'ai eu la chance de traduire quelques chansons de Violeta Parra, grande poétesse et chanteuse chilienne. Et j'y ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Tu vas peut-être nous donner un petit poème.
Oui. Alors, le poème que je propose est intitulé « Au retour au pays ancestral ». C'est un poème que j'ai écrit un petit peu pour revenir à cette image de la Martinique profonde, où il y avait une certaine manière de vivre entre les gens, et quelque chose que nous avons perdu et qu'il faut, me semble-t-il, déplorer. Donc, retour au pays ancestral. La nuit tombe. Dans les coins les plus reculés de l'île, la voix du tam-tam déchire le silence vespéral. On n'entend plus les grillons. Sous l'arbre symbolique se forme un cercle. Un cercle de nègres et de négresses, nègres paysans aux mains calleuses, nègres qu'exploite l'usinier du coin. La nuit crée l'Afrique et l'Afrique émerge de la nuit. À l'appel inconscient de l'Afrique, répondent nos nègres répondeurs, nos nègres batteurs, nos nègres chanteurs, nos nègres danseurs. Au centre du cercle, deux nègres, beaux comme la nuit qui enfante le nègre, forts comme le lion que nourrit l'Afrique, deux nègres s'affrontent en une lutte amicale. Le rythme du tam-tam rythme le geste des nègres lutteurs. Ce soir, tout est Afrique. Geste, sang, rythme, battement des mains, battement des pieds. La sueur nègre ruisselle sur les corps nègres. La joie est nègre. La force est nègre. Tout est nègre. Et dissipe la misère quotidienne des nègres, le retour au pays ancestral, sur un rythme de tam-tam et de l'India.
Donc un poème sur la négritude, l'identité nègre, la fierté d'être nègre. On retrouve chez Armet aussi cette veine poétique. Alors, moi j'aimerais que tu nous fasses une petite lecture d'un poème en créole.
D'accord, d'accord. Alors ici, j'ai quelques poèmes en créole. Bon, j'en prends un comme ça. Noël pays moins. Noël pays moins, c'est un pied poids d'angol chargé à condi millé en bas pilcon. Noël pays moins, c'est un petit vent fret qu'a fait poilou doubout l'aïe qu'a passé bon nez bon matin. Noël pays moins, c'est Fleury Noël et petit flet blanc qui a couvert tout pied-bois au tilles marées en l'ayou. Noël pays moins, c'est anti-chouab ou bien anti-litia coco ou qu'a printemps pomelin en bouchou pour bien goûter douceuil avant quitter y suivre canal gojou. Noël pays moins, c'est cantique qu'a roulé depuis Noël comment c'est fait, jique ton jour ouvert. Noël pays moins, c'est un cochon qu'a rouclé, dernier rouclé, en dernier noël en nuit, les médecins en quartier, et puis un seul coup de couteau, fini et puis rasli. Noël pays moins, c'est un belles assiettes mangées au tiragou cochon, poids d'angol et yam sasa, rousé et chouab ou ben litia coco, qu'a metté un petit moment doucet et plaisir en l'avéon, en bout en l'anéfossement et la misère.
Alors, tu, bon, malgré que tu dises que ce n'est pas la majorité de ton œuvre en, en créole, moi je sais que tu as d'autres très beaux poèmes en créole. Je pense que nous aurons l'occasion d'en entendre un peu plus. Pour l'instant, je voudrais que tu nous fasses découvrir un peu une autre facette de ton talent. Parce que, bon, il faut... Je dois avouer que c'est un texte que moi j'ai découvert parce que tu me l'as fait lire et j'ai trouvé ça tellement poétique. C'est de la prose, c'est un petit conte, mais il y a là-dedans une poésie magnifique. Tu veux nous le lire ?
Oui, bien sûr. Alors, je dois préciser que ce texte est un texte que j'ai écrit au moment où je lisais les Italiques jubilatoires de Nathalie Goldberg. Elle expliquait un petit peu quelle est sa démarche du point de vue de la création poétique et littéraire. Puis je me suis dit, tiens, je vais voir un petit peu comment ça peut fonctionner de mon point de vue. Et ça a donné ceci. Il était une fois un enfant qui adorait faire du découpage. Un jour... Alors qu'il ne restait plus rien dans la maison qui lui permit de s'adonner à sa passion, il se mit à la fenêtre du salon et regarda le ciel que lui masquaient en partie les dernières branches d'un arbre à pain. Soudain, une idée lui vint. Il alla à la cuisine où se trouvaient ses parents et interrogea son père. « Dis, papa, est-ce que je peux faire dans le ciel une découpe en forme de feuilles d'arbre à pain ?» Le père et la mère se regardèrent plus qu'étonnés par la question de leur fils. Comment cet enfant qu'ils avaient toujours considéré comme un enfant intelligent pouvait-il faire montre de tant d'absurdité et de stupidité ? Mais, dit le père, tu es fou. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible, répliqua l'enfant avant de retourner à la fenêtre. La journée se déroula sans que personne ne fît la moindre allusion à ce qui s'était passé. Le soir venu, l'enfant alla se coucher, laissant au salon ses parents. Le lendemain, lorsque ces derniers, après s'être réveillés, allèrent à la fenêtre pour contempler le ciel comme ils le faisaient chaque matin, ils crurent devenir fous. Dans la voûte céleste, il y avait une énorme découpe en forme de feuilles d'arbre à pain. À l'intérieur de cette découpe se trouvait un visage d'une indescriptible beauté et sur lequel s'affichait un sourire qui n'était rien moins que celui de la paix et de l'amour.
Moi, je trouve que c'est un texte magnifique de fraîcheur, de simplicité, de beauté. Oui. Moi, c'est un texte qui m'a toujours beaucoup ému. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop dire tes poèmes d'amour. Alors, est-ce que tu veux m'autoriser à dire propos sur l'amour ?
Oui. Je t'autorise à le dire. Oui, je t'autorise à le dire.
Propos sur l'amour. L'amour est une fleur. Et comme la fleur, il demande à être soigné. Comme la fleur, il demande à être choyé. L'amour ne se devine pas. Il a besoin de mots et de gestes pour se dire. Il a besoin de mots et de gestes pour se faire comprendre. Il a besoin de mots et de gestes pour se faire entendre. Les mots et les gestes, les soins et les attentions sont à l'amour ce que l'eau et le soleil sont à la fleur. Un amour sans mots et sans gestes, un amour sans soins et sans attention est un amour qui se fane, et un amour qui se fane est un amour déjà mort. L'amour est un être, et comme tout être, il naît, il vit et meurt. On n'est jamais responsable de sa naissance, mais de sa vie et de sa mort, on l'est. De sa vie surtout, car l'amour n'est jamais acquis une fois pour toutes. Un amour qui vit est un amour qui chaque jour émerveille, et c'est à chacun qu'il appartient de faire en sorte que chaque jour soit pour l'autre une occasion d'émerveillement, que chaque jour soit pour l'autre pareil au premier jour. Méditez là-dessus, messieurs et dames. Méditez. Alors, un autre petit texte en créole, peut-être.
Oui, bien sûr. Alors, ce texte, je l'ai intitulé « L'enmisé ». « À fos djoubate en bas soleil, des pigeons ouverts jictant y fémé. Sans trapper un petit ouspel pour péposer encore comme un des padons en ballasté. À force aller venir les traces la vie, sans savoir qui désagrément qu'a diété ou d'ailleurs chaque virage, en les chaque bodage, en bas chaque lombrage. À force passer temps qu'a fait coûte l'en main d'ailleurs sa quitta ou, les gros de l'eau la rivière paré pour chayer. À force iser bol jounou en les bancs l'église. Comme un des bon dieu longer un petit palbao et bas descendant sous. À force rester là, qu'à l'envier, anti-larrel, l'espoir, faux filer, en ouessel avion, sans jamais ouer trace, pombette à fait. Ou fini, pas vini, flègue, et d'air, qu'on dit code, au petit soleil, et que l'appli, qu'à battre des pins, nan, ni, nan, nan. Et jodi jou. Pièce jou, pour qu'on ouvezie, y'en le rond. Jodi jou, ou toujours en mi-temps, même fait noya, assise, en palapote caillou, qu'à attendre Basile, et que chargement ouessel, vini, joignou, pour mener ou aller.
Philosophie. Alors, Maurice, j'ai envie de lire un poème parce que celui-là, je le trouve un peu atypique dans ta production et très intéressant. Prostituées. C'étaient des femmes grandes et belles, cheveux noirs au vent frais de la nuit, châle sur l'épaule. C'étaient des filles grandes et belles, cheveux noirs au vent frais de la nuit, châle sur l'épaule. C'étaient des femmes, c'étaient des filles, toutes grandes et belles, toutes mères de famille nécessiteuses, toutes vendeuses de sexe à l'unité, non pas l'unité traditionnelle, pilier des systèmes millénaires de calcul, mais l'unité nouvelle, exprimé en termes de sexe, non de plaisir, sexe à 5 francs, sexe à 10 francs, sexe dont le prix se confond avec le point d'intersection de la nécessité de vivre et de la recherche du plaisir. Et au premier, dans la pénombre, au fond des alcôves de plaisir, les êtres de désir, dans la rencontre charnelle de l'instant, se triturant les chairs, se triturant les sexes, corps contre corps, sexe contre sexe, bouche contre bouche, baiser de femme frigide, baiser d'homme avide, non pas ce baiser qui fait mal, mal de ne pouvoir fixer l'instant d'amour dans l'éternité d'amour, mais ce baiser à goût de billets et de pièces. Et les clients défilant dans les chambres, et les clients défilant sur les corps, et sur les femmes, avenues de débauche, la remise en question d'une question trop longtemps restée dans les ténèbres de l'oubli. Un commentaire?
Bien, je dois dire que effectivement, ce poème, il est, comme tu le disais, atypique par rapport au reste de ce que j'ai pu écrire. Mais c'est comme ça, c'est le fruit de l'inspiration. Je pense que je l'ai écrit à un moment où j'étudiais Saint John Perse. Et sans vouloir m'envoyer des fleurs, je pense qu'il y a quelques petits accents persiens, tout petits. Voilà.
Tu nous donnes un poème de ton choix ?
Alors, je vais en lire un que j'ai intitulé « Respect pour femme ». Qui grand passeo, qui petit passeo, qui même la GPO, en femme, c'est toujours en femme. Et si, pas maman, il te képe, maman, si pas serre, il te képe serre, si pas ichou, il te képe ichou. Qui grand passeo, qui petit passeo, qui même la GPO, en femme, c'est toujours en femme. En femme, c'est toujours en moun qu'on m'aime. Alors, frère moi, l'aide ou non, l'aide ou il pas d'accord et puis on pas forcé. L'aide ou non, l'aide ou il pas d'accord et puis on pas brutalisé. L'aide ou non, l'aide ou il pas d'accord et puis on pas prend la vie. Qui grand passé ou qui petit passé ou qui même l'âge et puis en femme, c'est toujours en femme. En femme, c'est toujours en moun qu'on m'aime. Alors, ça, on pas t'éclaire un meilleur feu, pas fait. Passer au fossé, passer au brutalisé, passer au prendre la vie, ou rentrer en papeni pour bail anti-consolation. Passer au fossé, passer au brutalisé, passer au prendre la vie, prendre un babouin pour mettre à l'abri désagrément la vie. Passer au fossé. Passez au brutalisé, passez au prend la vie. Vous plaît, y avait boire pour bailler titac chalet. Passez au fossé, passez au brutalisé, passez au prend la vie. Choyez et bailler l'amour, comptez que aimer yo choyez, comptez que aimer yo ballon.
Voilà un poème que tu aurais pu envoyer à l'Union des femmes martiniquaises.
Oui, oui, cela m'a déjà été dit. Mais je n'ai pas encore fait le geste.
Alors, est-ce que je peux lire un poème?
Bien sûr, bien sûr.
Que j'aime beaucoup, qui s'appelle Réhabilitation.
Réhabilitation, oui.
Et qui est d'actualité, on pourrait dire.
Dans une certaine mesure.
Au commencement, les ténèbres couvraient l'abîme. J'étais déjà dans les ténèbres avant Adam, avant Ève. Il y avait moi. Je suis le père de ceux dont on veut que je sois le fils. J'ai l'âge de l'univers. J'ai posé les bornes de la civilisation, inventé la science, enfanté les arts, donné aux hommes la clé du savoir. Je suis l'antériorité de l'antériorité, la mauvaise foi des faiseurs d'histoire, l'intérêt, le mensonge, la mystification, l'aliénation. On fait de moi le rebut de l'humanité. Une brume d'oubli a couvert mon œuvre. Mais l'heure du nègre a sonné. Que me réhabilite le poème, que naissent des mots nouveaux au service de la vérité, que le mépris s'éloigne de mon nom nègre, de ma couleur noire. Que sous le poids des mots s'écroulent les murs de ma prison, gouffre séculaire où retentit encore le bruit de mes chaînes. Que l'histoire devienne l'histoire. Alors, ma parole ne sera plus de fer rouillé, ni de carcan brisé, ni de chaîne rompue. Ma parole sera de miel. Douce comme la brise matinale qui effleure de ses doigts fragiles l'aube de la vérité. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup, beaucoup.
Oui, merci de me le dire. Et c'est un texte que j'ai écrit à l'époque où je lisais et j'étudiais chez Conta Diop.
Évidemment. Et oui. Très, très bonne lecture, chez Conta Diop. On ne le dira jamais assez. Si vous voulez vraiment apprendre des choses sur l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'humanité, il faut lire chez Conta Diop. Un dernier petit poème que tu pourrais nous lire avant que nous ébauchions un mot de la fin.
D'accord. Alors ce poème, je l'ai intitulé « Quand je parle de mon pays ». Quand je parle de mon pays, je parle de vie qui s'attarde sur les boulevards de l'ennui, où la solitude est la pire des misères faites à l'homme. Je parle de regards vides qui ont la consistance des matins brumeux de décembre, où le corps se referme sur lui-même pour se faire un rempart contre la brise glaciale. Je parle de visages fermés au milieu d'autres visages fermés. Je parle de poches trouées au milieu d'autres poches trouées. Je parle de ventres vides au milieu d'autres ventres vides. Quand je parle de mon pays, je parle d'enfants dont la faim tenace résiste aux caresses impuissantes de pères et de mères tout aussi impuissants. Je parle d'une jeunesse promise à l'exil et au regard froid de l'autre. Je parle d'hommes et de femmes dont la vie n'est faite que d'espoir. Je parle de sourires, de rires, de joies et de bonheurs sans cesse remis à demain. Quand je parle de mon pays, je parle d'une île de grande dérive, d'une île bateau sans capitaine ni lapteau, d'une île où liberté ne se dit plus ni en français ni en créole. Quand je parle de mon pays, je parle de colère éteinte par la conjonction du verbe et du billet. Je parle de corps stoppé dans l'élan par la mitraille. Je parle de vie sacrifiée sur l'autel de la liberté. Quand je parle de mon pays, je parle d'un pays où l'homme est à naître, la liberté à conquérir, le peuple à ériger, la nation à édifier.
Bien, un beau poème. Un mot de la fin, peut-être.
Oui, un mot de la fin. Alors, d'abord, je voulais te remercier de nouveau de m'avoir invité.
C'est moi qui te remercie d'avoir bien voulu répondre à cette invitation.
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont écoutés, toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés, en espérant que ce qu'ils ont entendu leur a plu. Et puis, je voudrais revenir un petit peu sur ce que nous avons dit tout à l'heure. La poésie me semble quelque chose de fondamental dans le développement de l'être humain. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir écrire, je crois qu'il faut saisir cette chance, ne pas la laisser passer. Parce que la poésie, c'est l'art, et l'art, je crois que c'est, au-delà de tout ce qui peut être agressif, etc., un des lieux, un des espaces de communication qui peuvent faire que l'homme entre vraiment en contact avec l'homme. Et quand je dis l'homme, je mets l'homme avec un grand H et je parle de tout ce qu'il y a de plus profond en lui. Voilà.
Alors moi, comme mot de la fin, je dirais poème militant du temps jadis, c'est pas fait pour rester sous le boisseau. Alors j'espère que nous aurons le plaisir de pouvoir l'acquérir et le lire très bientôt. Merci Maurice Aurel. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir le fabuliste créole Georges Devassoigne. Alors, à très bientôt. Passez une excellente semaine avec beaucoup d'amour et beaucoup de poésie.